Le divin Ulysse prit la parole et dit, ayant sa ruse en tête, « Écoutez-moi, prétendant de l'illustre reine, mon cœur me pousse à vous dire une idée qui lui est venue en ma poitrine. Je vous le demande. Donnez-moi l'arc bien poli. Je voudrais parmi vous essayer mes bras et ma force, savoir si j'ai encore la vigueur qui jadis animait mes membres souples, ou si ma vie agitée, la misère, l'ont détruite pour jamais. » La prudente Pénélope dit alors, « Cet étranger est grand et fort, et il se glorifie d'être d'une bonne race. Donnez-lui donc l'arc d'Ulysse, afin que nous voyions ce qu'il en fera. » Et je le dis, et ma parole s'accomplira. S'il tend l'arc, et si Apollon lui accorde cette gloire, je le couvrirai de beaux vêtements, d'un manteau et d'une tunique, et je lui donnerai une lance aiguë pour qu'il se défende des chiens et des hommes, et une épée à deux tranchants. Et je lui donnerai aussi des sandales, et je le renverrai là où son cœur et son âme lui ordonnent d'aller. » Et alors, le prudent Télémaque lui répondit, « Ma mère, aucun des Achéens ne peut m'empêcher de donner ou de refuser cet arc à qui je voudrais, ni aucun de ceux qui dominent dans l'âpre Ithaque ou qui habitent Élis ou paissent les chevaux. Aucun d'entre eux ne m'arrêtera si je veux donner cet arc à mon hôte. Mais rentre dans ta chambre haute et prends souci de tes travaux, de la toile et du fuseau. Ordonne aux servantes de reprendre leurs tâches. Tout le reste regarde les hommes, et surtout moi, qui commande dans cette demeure. » Et Pénélope, surprise, rentra dans la maison songeant en son âme aux paroles prudentes de son fils. Puis, étant montée dans la chambre haute avec ses servantes, elle pleura son cher mari Ulysse, jusqu'à ce qu'Athéna, aux yeux clairs, eût répandu le doux sommeil sur ses paupières. Alors le divin Porché prit l'arc recourbé et l'emporta. Et les prétendants firent un grand tumulte dans la salle. Et l'un de ces jeunes hommes insolents dit « Où portes-tu cet arc, immonde Porché, vagabond ? Bientôt les chiens rapides que tu nourris te mangeront au milieu de tes porcs, loin des hommes, si Apollon et les autres dieux immortels nous sont propices. » Ils parlèrent ainsi, et Eumée déposa l'arc où il était plein de crainte, parce qu'il le menaçait en foule dans la demeure. Mais, d'un autre côté, Télémaque cria en le menaçant, « Père, porte promptement l'arc plus loin, et n'obéis pas à tout le monde, de peur que, bien plus jeune que toi, je te chasse à coups de pierre vers tes champs, car je suis le plus fort. Plutôt Dieu que je fusse aussi supérieur par la force de mes bras aux prétendants qui sont ici, car je les chasserai aussitôt honteusement de ma demeure où ils commettent des actions mauvaises. » Il parla ainsi, et tous les prétendants se mirent à rire de lui, et cessèrent d'être irrités. Et le Porché, traversant la salle, emporta l'arc et le remit aux mains du subtil Ulysse. Et aussitôt, il appela la nourrice Euryclée. Télémaque t'ordonne, ô prudente Euryclée, de fermer les portes solides de la maison. Si quelqu'un des nôtres entend de la cour des gémissements ou du tumulte, qu'il y reste et s'occupe tranquillement de son travail. » Il parla ainsi, et sa parole ne fut point vaine, et Euryclée ferma les portes de la belle demeure. Philoïtios, sautant dehors, ferma aussi les portes de la cour. Et il y avait sous le portique un câble d'écorce de nef, à bancs de rameur, et il en lia les portes. Puis, rentrant dans la salle, il s'assit sur le siège qu'il avait quitté, et il regarda Ulysse. Mais celui-ci, tournant l'arc de tous côtés, examinait çà et là si les vers n'avaient point rongé la corne en l'absence du maître. Et les prétendants se disaient les uns aux autres, en le regardant, « Certes, celui-ci est un admirateur ou un voleur d'arc. Peut-être en a-t-il de semblable dans sa demeure, ou veut-il en faire ? Comme ce vagabond plein de mauvais desseins le retourne entre ses mains. » Et l'un de ces jeunes hommes insolents dit aussi, « Plutôt Dieu que cet arc lui porte un malheur, aussi sûrement qu'il ne pourra le tendre. » Ainsi parlaient les prétendants. Mais le subtil Ulysse, ayant examiné le grand arc, le tendit aussi aisément qu'un homme habile à jouer de la cithare et à chanter, tant, à l'aide d'une cheville, une nouvelle corde faite de l'intestin tordu d'une brebis. Ce fut ainsi qu'Ulysse, tenant le grand arc, tendit aisément de la main droite le nerf qui résonna comme le cri de l'hirondelle. Et une amère douleur saisit les prétendants, et ils changèrent tous de couleur. Et Zeus, manifestant un signe, tonna fortement, et le patient et divin Ulysse se réjouit de ce que le fils du subtil Cronos lui eût envoyé ce signe. Et il saisit une flèche rapide qui, retirée du carquois, était posée sur la table, tandis que toutes les autres étaient restées dans le carquois creux jusqu'à ce que les Achéens les eussent essayées. Puis, saisissant la poignée de l'arc, il tira le nerf sans quitter son siège, et visant le but, il lança la flèche lourde d'airain qui ne s'écarta point et traversa tous les anneaux des haches. Alors, il dit à Télémaque, « Télémaque, l'étranger assis dans tes demeures ne te fait pas honte. Je ne me suis point écarté du but, et je ne me suis point longtemps fatigué à tendre cet arc. Ma vigueur est encore entière, et les prétendants ne me mépriseront plus. Mais voici l'heure pour les Achéens de préparer le repas pendant qu'il fait encore jour. Puis, ils se charmeront des sons de la cithare et du chant, qui sont les ornements des repas. » Il parla ainsi, et fit un signe avec ses sourcils, et Télémaque, le cher fils du divin Ulysse, ceignit une épée aiguë, saisit une lance, et armé de l'airain splendide se plaça auprès du siège d'Ulysse.